Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui reprend, avec Sophie qui est en face de moi, José qui est au platine et qui a choisi le morceau de musique que vous venez d'entendre, un morceau d'un groupe que je ne connais pas, qui s'appelle Spectre, et dont le titre était, vous avez pu le deviner, Cold War. Vous avez voilà, ça vous indique un petit peu le thème qu'on va aborder. Comme d'habitude, José fait des programmations thématiques. Et ce soir, on a choisi de vous parler d'un livre qui s'intitule « Quand la raison faillit perdre l'esprit ». Alors, c'est un ouvrage collectif. Il a été écrit à plusieurs mains. C'est pas des articles qui ont été réunis. C'est plusieurs chercheurs de différentes disciplines qui l'ont écrit ensemble après s'être rencontrés lors d'un colloque. Donc, je crois qu'ils sont américains, puisque ça a été édité par à l'origine par les universités de Chicago. Voilà. Oui, donc professeur d'économie, professeur d'histoire des sciences à Harvard, professeur d'histoire des sciences à l'université de Princeton. Oui, c'est des Américains, ça. Non, parce qu'il y a Lauren Daston qui dirige le Max Planck Institute à Berlin, mais qui est professeur invité à l'université de Chicago aussi. Voilà, donc en gros, c'est des profs. Donc vous avez Judy Klein, Rebecca Lemoff, Michael Gordin, tout un tas de gens que je connais absolument pas, Lauren Daston, Paul Erickson et Thomas Turm. Donc leur livre s'intitule « Quand la raison faillit perdre l'esprit » et il a été intitulé, en sous-titre « La rationalité mise à l'épreuve de la guerre froide ». Et il a été édité en 2015 par Zone Sensible et traduit de l'anglais par Jean-François Carreau. Carreau qui traduit énormément de choses. On se demande comment il a le temps de faire tout ça. Alors, c'est un livre donc qui parle de la guerre froide. Alors, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, je me suis dit juste avant l'émission que je pourrais vous parler de Bergson et des deux sources de la morale et de la religion. Pourquoi ? Je vous explique, c'est que Bergson, dans les deux sources de la morale et de la religion, constate que l'humanité a mis la main technique sur de plus en plus de ressources naturelles, et que ça c'était sans doute dans ce qu'il appelle le plan de la nature. Alors, la nature, c'est cette espèce d'arrière-plan un peu divin chez Bergson, qui est très très gonflant. En gros, tant qu'on maîtrisait l'énergie, tant qu'on produisait l'énergie grâce au feu, grâce aux bêtes, grâce à nos propres muscles, tout allait bien.
Et quand ça allait mal, en fait, après ?
Ça a commencé à aller mal quand on a mis la main sur le charbon. Parce que pour Bergson, là, on a rompu le plan de la nature et on a commencé à développer des énergies absolument phénoménales.
Mais le charbon n'était pas dans la nature ?
Si, bien sûr. Mais bon, c'est Bergson.
D'accord.
Et donc, l'utilisation du charbon n'était pas dans le plan de la nature, sans doute. l'utilisation humaine du charbon. Et ce que Bergson dit, c'est que si on considère que la technique est une extension de notre corps, et que nos outils sont des espèces d'organes artificiels. Voilà, on pourrait imaginer que le marteau est une sorte de super point. Voilà, parce que c'est difficile de clouer un marteau à main nue. De planter un clou à main nue, c'est très compliqué. Par contre, si vous en avez un marteau, voilà, ça va plus vite. Et ce qui veut dire, c'est que, grâce à la maîtrise des énergies fossiles, on a maîtrisé, on est devenu à la tête d'un corps qui est beaucoup trop grand, beaucoup trop puissant pour qu'on puisse le contrôler.
D'accord.
Comme si c'était un corps, dit-il, où finalement, on n'avait pas assez d'esprit, pas assez d'âme pour le contrôler. Et Bergson dit qu'il faudrait un supplément d'âme. Le supplément d'âme pour ce corps gigantesque technique que l'homme s'est fabriqué, je pense que c'est, au bout du compte, c'est la religion.
J'allais demander un supplément de spiritualité.
Puisque c'est
en fait
dans les deux sources de la morale et de la religion, il attend que quelqu'un fasse propose une nouvelle morale, ce qu'il appelle, je crois, la société, une morale ouverte. Et ça, c'est prophétique, c'est quelqu'un qui bouleverse la morale.
Et c'est forcément religieux ?
En partie, oui. D'accord. Parce qu'il faut que ça entraîne tout ça. Donc, pour lui, les grands réformateurs de la morale sont essentiellement des prophètes.
Okay.
Mais, donc, vous avez ce problème-là. Alors, vous dites, pourquoi est-ce qu'il parle de ça ? Il parle de la guerre froide, tout ça, il parle de tout et de n'importe quoi. C'est parce qu'en fait, il y a des gens qui... Bergson, lui, il a écrit ce bouquin dans les années 40, on ne maîtrisait pas encore l'énergie atomique. Après Nagasaki, après Hiroshima, on maîtrise la bombe atomique. Et là, le problème qu'il avait soulevé, qui n'est pas totalement faux...
Qu'est-ce qu'on fait de toute cette énergie ?
Le problème, on pourrait le formuler d'une autre façon, en disant, peut-être que moralement, on n'est pas beaucoup plus évolué que les hommes préhistoriques. En revanche, eux, ils avaient des lances et nous, on a des bombes atomiques. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors, Bergson, il en appelait un supplément d'âme, c'est-à-dire un nouveau prophète. Et il y a des gens qui, alors peut-être, n'avaient pas forcément de très très bonnes intentions, pas très très sympathiques, et pas avec les bons financements, qui se sont dit, mais... Pas forcément un supplément d'âme, mais si on faisait des calculs. Si, au lieu de, d'attendre qu'un prophète arrive pour nous dire quoi faire et comment gérer nos bombes atomiques, on essayait de modéliser, c'est-à-dire de mettre la décision en modèle.
Mais le fait qu'ils aient de bonnes intentions ou pas, en fait, dans leur idée, on va faire des calculs, c'est pas dit dans l'idée.
Non, pas du
ça
tout.
Ça peut sembler une bonne idée, enfin, moi ça me semble
pas une mauvaise idée. Ah oui, moi ça me semble plutôt, c'est-à-dire que c'est mieux qu'un supplément d'âme.
Oui. Tu fais des calculs, quoi.
Tu fais des calculs, au moins, c'est pas, on ne t'attend pas un prophète.
Alors, je trouve que l'idée, elle n'est pas mauvaise.
Tu peux te planter, tes calculs, l'idée elle-même peut être finalement inadéquate, c'est-à-dire.
Au moins, t'essayes.
Au moins, t'essayes. Je préfère ça au supplément d'âme à la Bergson. C'est-à-dire, voilà, il nous manque un prophète. Non, non, il nous manque des bons modèles de décision. Et c'est ça qui va être décrit dans ce livre, donc, qui s'intitule Quand la raison faillit perdre l'esprit. Et qui va essayer de décrire, en fait, dans ce livre, les auteurs essaient de décrire ce qu'ont fait tout un tas de gens, essentiellement aux États-Unis. Pendant la période de la guerre froide, et plus particulièrement entre les années 60 et les années 80, pour justement définir un modèle de rationalité qui nous permettrait de prendre des décisions efficaces de manière presque automatique.
Non, pour gagner du temps.
Pour gagner du temps et de l'efficacité. Mmh. C'est-à-dire que leur idée, c'est que justement, si je reviens à mon homme préhistorique, c'est que, alors, il y a une idée un peu technocratique aussi derrière, c'est pour ça que je dis qu'ils n'étaient pas forcément tous très sympathiques. C'est-à-dire qu'ils ont l'idée que dans le monde moderne, finalement, on est confronté à un défi auquel l'humanité n'avait jamais été confrontée auparavant. Parce que, ils se disent, voilà, en gros, le prétendu Homo sapiens s'est révélé déjà incapable de maîtriser l'essor de l'automobile. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec l'armement nucléaire ? Et donc, un économiste comme ça en politique, qui était en poste à Princeton, Morgan Stern, qui avait écrit avec le mathématicien John Newman, la théorie des jeux et du comportement économique, en 1944, un bouquin qui, semble-t-il, a eu une influence assez fondamentale sur tout ce mouvement, lui dit que, ben voilà, pour l'instant, aucun système politique ou aucune science humaine n'ont pour l'instant été capable de relever le défi de la prise de décision rationnelle dans un monde en constante transformation. Donc ça, c'est une idée un petit peu rebattue, c'est-à-dire l'idée qu'avant, les hommes vivaient sur des rythmes longs, dans lesquels, finalement, la prise de décision était facilitée par les traditions. C'est-à-dire qu'on avait pas, on avait rarement des mauvaises surprises.
Et est-ce que c'est...
Globalement, les gens agissaient toujours plus ou moins de la même façon.
Et est-ce qu'on avait moins de questions à se poser aussi, moins de types différents de questions ?
C'est ce qu'ils prétendent, moi je suis pas sûr. D'accord. Je vois pas pourquoi les gens d'avant se seraient posé moins de questions que ceux d'aujourd'hui.
Je te demande comme ça.
Je réponds. C'est comme quand on dit qu'il y a moins qu'aujourd'hui on peut plus être un grand savant parce qu'il y a plus de connaissances qu'avant. Mm-hmm. Mais avant ils avaient plein de trucs, les bibliothèques étaient farcies de bouquins. Mm. Bon, ok, par rapport à aujourd'hui, la moitié était faux, ou trois quarts étaient faux, mais malgré tout, comme eux
aujourd'hui,
pensaient que c'était vrai.
Aujourd'hui, il y en a beaucoup de faux aussi.
Sauf qu'on ne sait pas encore lesquels. Mais bon, ils les savaient aussi, donc je ne suis pas sûr. Mais bon, en tout cas, ils partent de cette idée-là, c'est que finalement, on est confronté à une situation inédite dans l'histoire de l'humanité. Et c'est une situation. Pourquoi inédite ? Et ça, c'est vrai, je pense, c'est parce que tout simplement, des mauvaises décisions humaines peuvent entraîner notre annihilation.
D'accord.
Tout simplement, avec les armes nucléaires.
Bah, du coup, ils sont bien intentionnés. Ils ne veulent pas notre annihilation déjà. Enfin, leur annihilation.
Oui, ce n'est pas des savants fous.
C'est ça.
Mais bon, en même temps, ils sont convaincus, malgré tout, c'est ça qui est gênant. Je cite un truc qui va te montrer ce que je vise. C'est que, voilà, il y a un politologue qui était aussi un ancien ambassadeur américain en Union soviétique, alors ça, il faudrait en parler de ses fonctions. Ça s'appelle George Kennan, qui avait dit, voilà, face à la complexité de l'environnement technologique, l'homme ordinaire est incapable de savoir ce qui lui est réellement bénéfique. Mmh. Ici, en gros, on utilise l'argument d'un environnement nouveau pour faire passer du bon vieux paternalisme.
D'accord.
Malgré tout, ces intellectuels américains je dévie un petit peu, étaient des cumulards. Ils étaient profs à l'université. Ils passaient dans une fondation privée qui finançait leur recherche pendant 2 ans, histoire qu'ils écrivent un livre sur justement le modèle de prise de décision. Que cette fondation, elle pouvait être financée par le Pentagone, c'est-à-dire l'armée.
Bon, après, c'était peut-être des cumulards, c'était pas des grands patrons non plus.
Après, ils passaient. Non, c'était des cumulards de l'État, plus ou moins. C'est-à-dire qu'après, ils pouvaient passer aussi des postes assez élevés dans l'administration américaine. Et en fait, ils arrêtaient pas de passer d'un poste à l'autre, comme ça. D'accord. C'était des hommes de pouvoir aussi.
Mmh. Ah,
essentiellement des hommes.
Mmh.
Et ils avaient une vision quand même assez technocratique de la chose.
D'accord.
Alors, après, il faudra préciser ce que je veux dire par là, parce que l'homme ordinaire est incapable de savoir ce qui est réellement bénéfique.
Donc il faut que quelqu'un lui montre
ça veut dire que l'homme extraordinaire, est capable de savoir ce que l'homme ordinaire a besoin. Tu vois-tu? Et eux, ils vont dire, bah, en même temps, ils se fondent sur un constat qui est difficilement. Qu'on peut difficilement nier. Voilà, là, les auteurs que je cite disent l'homme du paléolithique était rompu à la violence, mais maniait sa hache de silex au sein d'une temporalité relativement lente. Il disposait de temps pour supplier, se défendre, élaborer des stratégies tenant compte de la complexité et des hasards de la situation. Un missile nucléaire pouvait arriver de l'autre bout du globe à peu près 30 minutes, ce qui ne laissait guère de temps de se soucier des détails. Et tu vois, ici, à cette situation, justement, l'homme préhistorique, il a du temps.
D'accord.
Pour décider. L'homme moderne, non. Et donc, c'est comme ça que eux vont se mettre, tous ces gens, qui venaient de toutes les disciplines, c'est ça qui est assez formidable comme mouvement, il y a eu une espèce d'effervescence intellectuelle totale. Et c'était des types extrêmement brillants, qui étaient économistes, politologues, philosophes parfois, anthropologues, mathématiciens, psychologues, biologistes, experts de la théorie des jeux, ils se réunissaient.
Ils étaient beaucoup ?
Une dizaine, vingtaine, peut-être plus, mais bon, parce qu'après, ils avaient des étudiants, donc là, ils en citent 10, 20, mais tous ces mecs-là avaient des gros financements, avaient des étudiants, menaient des expériences, c'était des poids lourds, et tout, et ils occupaient des fonctions toujours relativement de la responsabilité à différents niveaux du complexe américain, enfin, de l'État américain, donc c'était justement des intellectuels de l'action.
D'accord.
Et on parlait d'eux dans les journaux.
Mmh. Et les gens les connaissaient ?
Plus ou moins. Ça suscitait. Ça, ils n'en parlent pas, mais bon, il y avait quelques journaux qui parlaient d'eux quand même, malgré
et qui
tout.
Qui suivaient leur action.
Leur recherche. Alors, c'était des recherches souvent très techniques, donc qui n'étaient pas trop suivies. Donc, ces types, en gros, se sont réunis et se sont dit le problème, notre gros problème, c'est la décision. C'est comment est-ce que les gens. C'est qu'on risque de se faire sauter la gueule, tous, pour peu qu'on prenne une mauvaise décision. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la culture de l'époque. Hein, c'est genre le film Docteur Folamour, mais pas seulement. Bon, vous savez, tout un tas de films de l'époque qui montrent les conséquences catastrophiques, justement, de décisions prises hâtivement. Et donc, ils se disent, et c'est ça qui va en partie faire tout l'essor du mouvement, de cette rationalité de guerre froide, ils se disent, nous, comment est-ce qu'on pourrait éviter, justement, les décisions catastrophiques? Est-ce qu'on peut mettre en modèle la prise de décision humaine, de telle sorte que l'automatiser d'une certaine manière, de telle sorte qu'on va limiter au maximum le facteur humain. Parce que eux, ils avaient tendance évidemment à penser que un des gros problèmes, c'était l'émotion, c'était l'affolement, la panique, ce genre de trucs.
Et ça, du coup, ils proposaient pas de le supprimer en fait ou d'apprendre à l'apprivoiser. Ils proposaient ils proposaient juste autre chose.
Ils proposaient autre chose et ils plaçaient beaucoup d'espoir dans les ordinateurs.
Mais ils n'en avaient pas trop à l'époque.
Au début, ils avaient des ordinateurs merdiques qui avaient besoin d'un temps phénoménal pour faire des calculs qui aujourd'hui seraient faits sans doute en 30 secondes. Donc il y avait ce problème pratique, même si je pense qu'au bout du compte, ils sont sur un problème plus théorique. À savoir que quand on prend une décision, il y a beaucoup de facteurs et beaucoup d'aléatoires, et que ça, c'est pas sûr qu'on puisse le mettre dans un modèle. Donc, ils vont se dire, voilà, bon, comment est-ce qu'on peut... et finalement, je reviens sur le côté technocratique, tous ces universitaires, ils ambitionnaient non seulement de guider la rationalité de l'homme ordinaire, mais plus encore de guider la rationalité des dirigeants. Ce qui est encore autre chose. C'est-à-dire que je pense qu'ils se voyaient en partie comme des conseillers du prince.
Ouais.
Et c'est pas pour rien que c'est quelqu'un comme Robert McNamara, qui a été ministre pendant la guerre du Vietnam... qui était vu comme un des best and brightest, un des meilleurs et des plus intelligents de l'administration américaine, venait de ces cercles.
Ah d'accord, ça je savais pas.
Bon, c'est un type qui a bombardé le Vietnam qui a fait massacrer des tas de gens et qui.
Mais il venait de ce groupe-là.
Il avait participé à leurs débats, il les connaissait.
D'accord.
Ils se voyaient vraiment, je pense, comme des gens qui, comme des intellectuels, qui non seulement étaient des grands théoriciens dans leur domaine propre, mais qui en plus allaient avoir une action décisive sur la prise de décision politique.
Mais si McNamara est arrivé là où il est arrivé, c'est que ça a un peu marché en fait.
Bah, c'est que ça a marché au sein de l'administration américaine, oui. C'est-à-dire qu'ils étaient très très bien vus. Parce qu'on plaçait beaucoup d'espoir dans leur tentative de définir la rationalité.
D'où les financements, etc.
D'où les financements qui étaient massifs, etc. Et alors, ici, alors, ce qui est, alors là je les présente sous un jour un peu négatif, même si en fait, bon, leur but c'était quand même d'empêcher que la planète explose.
Quand même.
Très très fréquemment, c'est comme ça, enfin, c'est comme ça qu'ils percevaient leur entreprise. Ensuite, à quoi elle a servi concrètement, ça c'est peut-être une autre question. Mais consciemment.
Tu vas nous le dire après à quoi ça a vraiment servi.
Personne ne sait vraiment, mais bon, en tout cas, eux, un de leurs objectifs, c'était clairement. La question qui se posait, c'était comment éviter la catastrophe nucléaire. Alors, pour nous, c'est un peu bizarre parce que. Finalement, pour ça, pour essayer d'éviter la catastrophe nucléaire, ils se disent qu'il faut redéfinir la rationalité. Mais pour eux, la rationalité, c'est quelque chose de très très différent de ce que nous on entend par raison.
Mais c'est très abstrait.
Alors, de toute façon, c'est extrêmement abstrait. Et c'est ça qui va être aussi curieux, c'est qu'ils vont introduire des notions aussi abstraites que raison et rationalité dans le jeu politique. Et que ça va avoir un impact.
Pour des points très concrets sur la guerre froide.
Ouais. Et bah, sur l'organisation par exemple de la défense, je pense que leurs études elles ont eu un impact sur qui est-ce qu'on met, où est-ce qu'on le met pour prendre une décision stratégique, comment est-ce qu'on met des garde-fous, c'est-à-dire qui a le droit de décider, comment est-ce qu'il décide, etc. etc. Je pense qu'il y a tout un tas de réflexions qui ont eu un impact très très concret sur la décision, enfin comment dire, sur l'organisation de la décision. Militaire.
Mais il n'y a pas un problème de temporalité dans tout ça, parce que le temps qu'ils réfléchissent, qu'ils fassent leur modèle, en fait, finalement, il se passait des choses, bah les gens prenaient des décisions.
C'est ça, là, il y avait un sentiment d'urgence qui a donné, semble-t-il, tout le dynamisme à ce mouvement d'intellectuels américains qui voulaient créer un modèle de rationalité adapté à la prise de décision stratégique en temps court. Donc ils avaient le sentiment, justement, de travailler en urgence, parce qu'ils savaient bien que le temps passait, et qu'on pouvait peut-être qu'on était en train de se rapprocher du jour où la catastrophe allait exploser. Et donc ils se disaient, il faut faire vite. Ça, ils en étaient assez conscients, et c'est pour ça qu'ils étaient complètement frénétiques.
D'accord.
Donc, alors le truc rigolo, c'est que eux se voyaient comme des héritiers des Lumières. Sauf que la raison.
Des scientistes, etc.
Alors, scientistes, non, parce que pour moi, les Lumières n'étaient pas scientistes, mais. Le côté, c'est la raison c'est la raison qui est la capacité humaine par excellence qui peut nous faire progresser.
D'accord.
En gros, ce serait ça le message des Lumières. C'est pas la tradition, c'est pas la religion, c'est la raison. C'est pas les émotions non plus, c'est la raison. Bon, et ça c'est le message des Lumières, et moi je suis d'accord avec. Donc là-dessus, eux, ils voient dans la continuité des Lumières. Mais un souci, c'est quoi? C'est que finalement, pour les Lumières, le calcul, c'est le côté un peu méprisable de la raison.
D'accord.
La raison, elle suppose la conscience, elle suppose tout un tas de choses, la réflexion, la délibération.
Pourquoi c'est méprisable le calcul?
Parce que le calcul est automatisable. Alors, il est complètement. Là, on n'a pas besoin de penser pour calculer, en fait.
Oui, donc c'est pas vraiment de la raison, en fait. Une fois que tu as élaboré le calcul.
Bah, c'est ce que certains se sont dit. Alors, bon, il y avait des machines à calculer au temps des Lumières, mais.
Si le but c'est d'automatiser, c'est vraiment.
Ils le voyaient pas comme ça parce qu'elles étaient trop rudimentaires. Donc, bon, les Lumières, en fait, intégraient encore. J'ai dit une bêtise, elles intégraient encore le calcul dans la raison, plus ou moins. Mais par contre, elles. C'était pas l'essentiel de la raison.
D'accord.
Et le mouvement là dont je vous parle, de ces économistes, de tous ces universitaires américains dans les années 60, aux années 80, donc eux vont, vont mettre en avant la rationalité plutôt que la raison. C'est-à-dire, au bout du compte, ce qui va les intéresser, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi la raison instrumentale. C'est-à-dire l'emploi des moyens les plus justes en vue d'une fin. Et c'est-à-dire qu'ils vont associer, eux, la raison plutôt à des choses comme l'économie ou l'ingénierie. Et aussi, bah, justement, au calcul. Et ils voudront, en fait, introduire le calcul dans des domaines où, traditionnellement, on voulait les exclure. Comme la prise de décision politique, en particulier, ou la méthode scientifique. Ils vont vouloir automatiser tout ça. Alors aujourd'hui, ça fait un peu scandale parce qu'on a tendance à penser que justement la raison humaine, elle doit désobéir aux règles. Alors qu'eux, ils vont nous dire non, la raison, la vraie raison,
elle doit obéir, en fait.
Elle doit obéir à des règles de logique et d'arithmétique et des règles formelles. Donc là-dessus, ils vont, alors ils se voient comme des héritiers des Lumières, en même temps ils sont en rupture avec les Lumières. Et le côté héritage des Lumières, ils sont aussi dans le côté technocratique, je pense. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire, voilà, c'est comme ça qu'on pense bien. Alors après, on va voir, est-ce que ça marche ou pas. José, tu nous mets une pause musicale.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et vous écoutez Jeudi Noir. On vient d'écouter What Reason de God Bullies. Et ce soir, on vous présente, enfin Michel vous présente, Quand la raison faillit perdre l'esprit, qui est paru aux éditions Zone Sensible cette année, avant l'été. Et Michel va nous parler de ces technocrates, en fait, qui essayaient d'automatiser les décisions politiques.
Voilà, de modéliser la prise de décision pour enfin parvenir à la modéliser et puis à l'automatiser. Donc, je vous avais parlé de ça. Alors, c'est assez curieux. Donc, je vous donne quelques noms parce que là, c'était un peu abstrait. Après, le problème, c'est que c'est pas forcément des gens qui sont très très connus. Comment dire? Et puis on va revenir sur qu'est-ce que ça veut dire rationalité de guerre froide, parce que quand même il faudrait définir ça. Et puis pourquoi de guerre froide? Alors, bon, qui était là-dedans? Bon, par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelait Schelling, qui a été prix Nobel d'économie en 2005. Qui participait à ça. Vous avez un type qui s'appelait Charles Hitch, qui était département du directeur d'économie de la Rand Corporation. Rand, c'était recherche et développement, c'est l'abréviation de recherche et développement, en fait, en anglais.
Une fondation privée.
Oui, après, il était secrétaire d'État assistant. Et je crois qu'à la base, c'était un intellectuel. Vous aviez un économiste, Daniel Ellsberg, un mathématicien, Anatole Rapoport, qui est assez connu. Et même le sociologue, et lui, qui est un peu plus connu, Erving Goffman. Qui a travaillé ensuite sur l'asile, la fiction du quotidien, enfin la comédie du quotidien, je crois. C'est un sociologue plutôt intéressant, interactionniste, c'est-à-dire qui pense que l'essentiel de la sociologie se joue quand on étudie les interactions sociales. Mmh. Et bon, il y avait aussi des politologues, un théoricien des jeux, enfin tout ça c'était, et ces gens-là se connaissaient tous, un psychologue aussi, Morton Deutsch, se connaissaient tous, se tutoyaient, participaient aux colloques, s'engueulaient comme du poisson pourri, échangeaient des trucs, et ils parlaient de, comment dire, les exemples qu'ils évoquaient, s'étendaient des jeux d'argent à Las Vegas, au déploiement des bombardiers du Strategic Air Command. Et tout ça, c'était justement dans l'optique de créer des modèles de rationalité.
Et ils ont eu cette idée en même temps, en fait, de se mettre en groupe et de réfléchir ?
Non, pas tout à fait. Alors, je vais y venir après.
D'accord.
L'idée, en fait, est venue... Alors, maintenant, je peux y venir tout de suite. Je vais te suivre. L'idée est venue en 1947, au moment où il a fallu briser le blocus de Berlin. c'est très très lié à la guerre froide, tout ça, toute cette histoire. C'est que voilà, en gros, les Américains.
Il y avait un problème concret là.
Il y avait un problème très très concret, c'est comment est-ce qu'on met en place, combien de temps on a besoin finalement, mm-hmm. pour préparer une offensive générale, par exemple terrestre, aérienne et autres. Et ils se sont dit, ben, y a un problème, c'est qu'on aurait besoin de X temps pour mm-hmm. préparer une offensive. Alors je ne sais plus combien c'était, mais c'était très long du type pour préparer le débarquement de Normandie. Je crois qu'il leur a fallu un an. Le préparer, c'est prévoir toute la logistique, tout ce qu'il faudra comme ravitaillement, comme hommes, comme transport, etc., etc. Et en fait, ils se demandaient, est-ce qu'il n'y en aura pas un moyen de réduire ce temps de préparation ? Et alors, ils espéraient beaucoup, ils comptaient pas mal sur les ordinateurs, mais les ordinateurs qui étaient très très qui balbutiaient à l'époque. Bon, et arrive le blocus de Berlin par l'URSS, et là les Américains décident de comment dire, c'est le début de la guerre froide, décident de ravitailler Berlin par avion. Et ils vont mettre en place un système complètement dingue et une efficacité redoutable, parce qu'ils vont livrer je sais pas combien de millions de tonnes de vivres à Berlin par avion.
Et ça marchait très bien.
Il y avait un avion qui décollait toutes les 2 ou 3 minutes pour délivrer des vivres. Alors, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça donne en logistique derrière, c'est colossal.
Et pendant combien de temps ?
Je ne sais plus, pendant plusieurs mois, je crois. Ça a été un truc complètement fou. Et ça les a... comment dire ? Et évidemment, il fallait des mathématiciens pour organiser ce genre de truc, parce qu'il faut faire des calculs très très précis sur le temps de vol. Alors je ne sais pas exactement, ça va être le temps de vol des avions,
temps de vol,
à quel moment on décolle, les écarts, tout ça. Donc il y avait un ou deux mathématiciens qui s'étaient penchés sur le truc, histoire d'optimiser un peu la chose, mais malgré tout c'était essentiellement du bricolage, c'est-à-dire que ceux qui ont organisé ça c'était des militaires.
Donc ces mêmes gens, ce groupe-là, en fait, ils ont assisté à ça?
Alors ils ont plus, alors c'est pas forcément les mêmes, ils ont commencé à participer. C'est-à-dire qu'on a comment dire, il y en a quelques-uns qui ont essayé de mettre en place une méthode pour justement rationaliser tout ça.
Mais sur un truc qui fonctionnait déjà finalement ?
Oui, mais justement, la question.
Pourquoi
en fait,
ça fonctionnait ?
Alors après, il y a eu de gros débats là-dessus. C'est qu'ils essayaient de trouver une solution optimale.
Donc faire mieux encore que ce qui était déjà fait.
Faire mieux que ce qui était déjà fait. Alors très très vite, en fait, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient absolument pas les moyens de calculer une solution optimale. Alors, on en avait parlé hors antenne, mais la seule réussite de cette tentative méthodologique...
Ça, c'est intéressant.
C'est très drôle. C'est qu'ils ont réussi... comment dire, ils ont réussi à plus ou moins rationaliser et optimiser le ravitaillement d'un économiste de Berkeley.
Et pour dépenser le moins possible et se nourrir le mieux possible.
C'est ça. Et par rapport au calcul qu'avait fait l'économiste, qu'il avait fait à la louche, vite fait, comme
c'était
ça...
C'était beaucoup mieux.
Pas beaucoup mieux.
Non.
C'était un peu mieux, mais par rapport à la quantité d'énergie dépensée pour arriver à ce résultat, on peut penser que c'était beaucoup moins bien en réalité.
Mais tout le temps qu'ils avaient gaspillé, quoi, en fait.
Oui, c'est tout le temps qu'ils avaient gaspillé l'énergie intellectuelle et tout et tout. Mm. Bon, et ils ont pas du tout, ils ont complètement échoué. De ce point de vue-là,
ils ont reconnu qu'ils avaient échoué quand même.
Oui, ils ont reconnu qu'ils ont échoué et ils en sont arrivés à l'idée que plutôt qu'un modèle optimal, il fallait trouver un modèle satisfaisant. Mm.
Oui, ça c'est pas mal comme idée.
Mais le modèle satisfaisant, en fait, il n'est pas forcément besoin.
Il existait déjà plus ou moins.
Ouais. Ouais. Donc ça,
ils sont de façon empirique en fait.
De ce point de vue-là, ils sont pris le mur. Mmh. Mais si je me souviens bien, parce que sur le passage, je l'ai pas relu récemment, c'est que en fait, ils comptaient beaucoup sur le développement de l'informatique. Mmh. Ils se sont dit, pour l'instant, si on n'arrive pas à avancer, c'est parce que nos ordinateurs ont des capacités de calcul trop limitées. Et que là, on a affaire à des équations à x variables. Pour les résoudre, il nous faudrait 10 ans, et encore, on n'est même pas sûr de pouvoir le faire. Donc, il faut que les ordinateurs s'améliorent. Et là, on pourra peut-être calculer les solutions optimales. Et c'est ça qui a donné naissance, finalement, à ce groupe d'intellectuels qui a cherché à rationaliser la prise de décision politique. Et sachant qu'en plus, bon, c'était... comment dire ? Oui, en 58, oui, bah oui, c'était un contexte de guerre froide, donc ils avaient vraiment conscience, ils se disaient, ça urge.
Rationalité de guerre froide, c'est pour ça que tu disais
oui,
tout à l'heure, qu'est-ce que c'est la rationalité de guerre froide?
Bah, il dit, alors, qu'est-ce que, alors pourquoi? Parce
ça
que
veut dire une rationalité sous pression du temps? Sous pression de la menace de...
Alors ça c'est rationalité de guerre froide, ça c'est les auteurs du livre dont je vous parle, là,
qui
l'appellent comme ça, parce qu'on a raison, failli perdre l'esprit, parce que les acteurs de ce moment intellectuel américain, eux, voulaient définir une rationalité universelle. Et pas simplement
une rationalité
qui aurait été limitée à l'époque de la guerre froide. Il n'empêche que cette rationalité, comment dire, la rationalité de guerre froide, ils la définissent, les auteurs du bouquin Quand la raison faillit perdre l'esprit, parce qu'elle a des traits qui la distinguent d'autres modèles de rationalité.
Ah bon, d'accord.
Bah oui, parce que le fond du problème, c'est que la rationalité, c'est pas définissable. C'est comme la vérité, c'est comme des trucs essentiels, c'est des concepts premiers, limite. Mmh. On peut pas les définir. Tout simplement, de façon consistante. Il y a des trucs qui sont, qu'on dira, rationnels, mais alors, est-ce qu'ils sont vraiment rationnels, ou est-ce que c'est traditionnel, est-ce que... Bon, tout ça, ça dépend aussi de... des buts que tu te fixes, des moyens que tu fixes pour essayer d'atteindre ces buts, etc. Et comment est-ce que tu évalues ces buts? Est-ce que tu trouves que c'est rationnel de faire ceci plutôt que cela? Donc en fait, c'est un merdier pas possible.
Ça se définit pas, en fait.
Pas de façon satisfaisante. Mmh. Enfin...
De façon optimale.
De façon optimale, non, sans doute pas. C'est plutôt un idéal qu'autre chose, et c'est même pas forcément un idéal très définissable. Donc, eux, ils disent, voilà, qu'est-ce que ce serait que les auteurs, là, en question, de Quand la raison faillit perdre l'esprit, disent, qu'est-ce que c'est, justement, comment définir la rationalité de guerre froide? Il dit, elle doit être en premier lieu formelle. Mm-hmm. Formelle, c'est-à-dire qu'elle doit être un petit peu, sur un modèle un peu mathématique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'éliminer toutes les contingences personnelles, où il y a un contexte trop précis.
Mm-hmm. La subjectivité, c'est ça?
Ouais, il faut éliminer la subjectivité en partie. C'est-à-dire, formel, c'est vide, c'est opposé à contenu. C'est-à-dire qu'il faut avoir des matrices, justement, des modèles de prise de décision, mm-hmm. qui peuvent s'appliquer à n'importe quelle situation concrète de prise de décision.
Compliqué, ça, quand même.
Ouais. C'est typiquement le dilemme du prisonnier. Le dilemme du prisonnier, pour nos éditeurs, s'ils ne le connaissent pas, il est très très célèbre. C'est, mettons, vous êtes prisonnier, vous avez commis un délit ou un crime, et les policiers vous cuisinent, et vous savez... qui en même temps ils sont en train de cuisiner votre complice. Quelle est la meilleure décision à prendre? Alors, c'est un modèle qui est complètement formel parce que, en fait, c'est un modèle qui s'applique aux prises de décision dans l'incertitude.
Sachant, ce que va dire notre complice.
Parce qu'on
en fait.
Est obligé de penser pour décider à ce que va dire notre complice. Mmh. Et les options qui se présentent dans ce modèle, qui est formel.
Les conséquences possibles, en fait.
C'est les conséquences possibles et c'est limité exprès. Mmh. D'accord? Parce que justement, ils veulent un modèle qui, ensuite, ils pourront peut-être étendre. Mais d'abord, il faut partir de la base. Et la base, pour eux, c'est en partie ça. Ça va être, voilà, ben, soit on avoue le premier, et auquel cas, on sort libre. Mmh. Voilà, on a balancé notre complice.
Bah, on sort libre, on va pas en prison, non?
Non, dans cette idée-là, non.
D'accord.
Soit, comment dire, les deux se dénoncent et les deux prennent super cher. Mmh. Soit l'un dénonce l'autre, et celui qui a dénoncé l'autre, ah oui, ben c'est toujours pareil, celui qui s'est fait dénoncer et qui n'a pas dénoncé prend 5 ans, mettons.
Donc est-ce qu'on a intérêt à trahir son ami,
c'est
son complice?
Et ce qu'ils disent, c'est que si aucun des deux n'avoue, ils feront peut-être, dans cette situation-là, ils feront, mettons, tous les deux un peu de prison, mm-hmm. mais beaucoup moins.
Que s'ils avaient que si c'était dénoncé voilà, ou s'ils avaient dénoncé l'autre.
C'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont gagnants mm-hmm. en termes de quantité totale de temps passé en prison. Si on les considère comme un groupe.
À moins de se trouver dans la situation individuelle où ils ont avoué et ils n'ont rien, ils n'ont qu'un temps de prison à faire. D'accord. Donc est-ce qu'on roule pour soi-même ou est-ce qu'on fait confiance à son ami ?
Et en fait, ce qu'ils essaient de montrer, c'est que rationnellement, il est plus valable mm-hmm. de se taire. Ouais. Et de surtout pas avouer. Le souci étant que tu ne sais jamais si l'autre ne va pas parler.
Donc ça dépend aussi de la subjectivité de l'autre.
Voilà. Et donc c'est ce type de modèle, par exemple, qu'on peut appeler formel, parce qu'ils vont essayer de l'appliquer à des tas de situations. Mm-hmm. Toutes les situations de décision dans l'incertitude.
Est-ce qu'on a intérêt à déclencher un conflit ? Est-ce qu'on a intérêt à envoyer une bombe, etc.
Voilà. Qu'est-ce qu'on gagne à faire ceci, à faire cela ? Est-ce qu'on ne gagne pas à faire ceci, à faire cela ? Qu'est-ce que l'autre fera en face, etc. Et donc, ils vont réfléchir à partir de ce type de modèle. Tout le temps. Qui sont des modèles très, très dépouillés. Mmh. Alors ça, c'est volontaire, parce qu'on peut leur reprocher d'être des modèles abstraits, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et ça, on leur a reproché dès le départ.
Et qu'est-ce qu'ils ont dit ?
En fait, ils le savaient, c'était fait exprès. C'est-à-dire que, en gros, leur idée, parce que c'est quand même souvent des matheux, des économistes, etc., des gens qui ont l'habitude de penser de façon très abstraite. Et leur idée, c'est que, pour comprendre une situation très concrète, ben, il faut d'abord avoir une espèce d'idée un peu générale.
Donc abstraite.
Mmh. Et c'est seulement quand on a dégagé, je pourrais dire, les axes principaux de la situation... Mmh. De toute situation, qu'on peut commencer à réfléchir plus concrètement. Mais d'abord, il faut avoir cette espèce de modèle général. En fait, ils pensent toujours du général au particulier. Ouais. Ils veulent appliquer un modèle général à une situation particulière, donc il faut d'abord construire ce modèle. Mais plus le modèle est général, nécessairement, plus il sera abstrait et éloigné du réel.
Alors c'est plus il sera difficilement applicable en termes de technicité, c'est-à-dire qu'il faudra savoir comment l'appliquer aussi.
Oui.
Ou est-ce que c'est dessiné, enfin, est-ce que c'est fait pour que tout le monde puisse savoir comment ça fonctionne ?
Ben non, parce que plus la situation est concrète, plus il faudra ajouter de, comment dire, éventuellement de...
Donc il faudra des intermédiaires en fait.
Il faut toujours plein d'intermédiaires.
Utiliser un modèle comme ça aussi abstrait et le concrétiser.
Ouais. Alors, à moins que eux aient eu dans l'idée qu'au bout d'un moment, ce seraient les ordinateurs qui prendraient les décisions. Ouais, ce genre de décision.
C'est possible qu'ils aient eu ça en tête ?
Oh, tout à fait, oui. Mm. Et que justement, il fallait modéliser la bonne décision.
Mm. Ah oui, ils y croyaient vraiment alors aux ordinateurs.
Ah oui, ils y croyaient vraiment.
Dur comme fer.
C'est-à-dire qu'il fallait éliminer un des gros problèmes, c'était le facteur humain.
Mm-hmm. Ouais, le problème, c'est les gens, en fait.
Bah oui.
La subjectivité, tout ça.
C'est-à-dire qu'ils se disaient, voilà, on a des armes, mais qu'est-ce qui se passe si notre président a un coup de folie ?
Ou raisonne n'importe comment, même sans être fou en fait.
Même sans être fou, sous pression, etc. Mmh. S'il fait n'importe quoi, on est foutu.
S'il n'a pas pris en compte tous les paramètres, etc.
C'est ça.
Juste une erreur humaine.
Oui. Mmh. Et c'était l'erreur humaine qui les a flippés. Et de ce point de vue-là, ils n'avaient pas tort. Ils n'avaient pas tort parce que, par exemple, alors, l'erreur humaine, ça c'est curieux parce qu'on sait maintenant que, par exemple, il y a eu plusieurs erreurs qui ont été faites par des machines parce qu'elles avaient été mal programmées par les humains. Bon, ça c'était. Aussi le problème.
Des erreurs humaines.
Au bout du compte, ça sera amené à une erreur humaine, mais si le processus de décision avait été automatisé, l'erreur humaine aurait eu des conséquences beaucoup plus catastrophiques. Par exemple, je crois qu'une fois les ordinateurs américains, ça il le cite, avaient détecté un tas de missiles. Mais en fait, c'était,
Des missiles soviétiques.
Des missiles soviétiques. Et en fait, c'était tout autre chose. Un truc tout bête, je sais plus lequel.
Oiseaux, des choses comme ça.
Pas le mouvement de la lune, mais ou le mouvement des oiseaux, mm-hmm. mais quelque chose de cet ordre.
C'était pas du tout ce qui.
Et sauf que les ingénieurs n'avaient pas du tout paramétré les radars
pour prendre en compte ce qui aurait pu arriver autre que des missiles en fait. D'accord. Donc c'était les ingénieurs.
Ouais. Mais la machine, mais imagine qu'après.
On réapplique cette.
Automatise la détection, ensuite automatise la prise de décision. Si la détection était mal programmée, tu as une décision qui va être rationnelle par rapport
à cette
aux informations données, sauf que les informations sont erronées.
D'accord. Et on est sûr de pouvoir avoir les. Enfin, on n'est pas
sûr. On n'est jamais sûr. C'est ça le problème, c'est qu'on n'est jamais sûr. Et c'est là que, par exemple, les humains peuvent jouer un rôle important. Il y a un soviétique, semble-t-il, un militaire soviétique, qui, paraît-il, a évité un conflit atomique, parce que cette fois-ci, c'était les ordinateurs russes qui s'étaient plantés. Et s'il avait suivi le code de procédure, il fallait qu'il envoie des missiles.
Il avait vu qu'il s'était planté.
Et le contexte politique, tout un tas de choses qu'il savait. C'était peut-être à tous les coups, c'était pendant une période où c'était plutôt la détente, où il y avait moins de temps, il n'y avait pas des tensions, c'était pas pendant la période de Cuba, par exemple.
D'accord. Ouais. Donc ça n'avait pas de sens d'envoyer une bombe.
Ça n'avait pas de sens d'envoyer une bombe, parce qu'il n'y avait aucun sens à ce qu'une bombe arrive à ce moment-là. Et donc il s'est dit non. Mais justement, ça pose un des gros problèmes, je pense. Ce type d'exemple pose le problème fondamental qui est, à mon avis, insoluble pour des gens qui raisonnent en termes d'automatisation de la prise de décision.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que la prise de décision politique ou militaire, elle se fait justement toujours dans un contexte qui est pour l'instant, en tout cas, beaucoup trop complexe à appréhender. Et à automatiser, pour être automatisé.
Donc il y a trop de paramètres, et en plus, à chaque conflit différent ou à chaque situation, ça serait des paramètres qui seraient encore différents, donc il faudrait reprogrammer en fait.
Surtout qu'en plus, il faudrait. Comment dire ça ? Je pourrais prendre l'exemple des programmes d'échecs. Les premiers programmes de joueurs d'échecs, qui jouent aux échecs, calculaient tout. Tous les mouvements possibles. Ce qui fait qu'il fallait des ordinateurs très très puissants, mais pour calculer plein de mouvements inutiles qu'un joueur humain n'aurait jamais considéré, parce qu'il n'avait aucun sens tactique ou stratégique. Du type, je sais pas, moi je vais faire tourner mon cavalier en rond pendant 5 tours. C'est génial, mon cavalier il tourne. Vous voyez, bon, c'est un mouvement possible. Sauf que c'est un mouvement qui, dans la plupart des cas, n'a strictement aucune pertinence stratégique. Bon. Mais l'ordinateur, il va le calculer, ce mouvement.
Ah ouais.
Donc il perd un temps fou. Enfin, pendant longtemps, il le calculait. Et ce qu'ont essayé de faire les programmeurs, c'est de justement restreindre l'ordinateur.
Pour pas faire ça.
Pour qu'ils fassent des calculs plus pertinents.
D'accord.
Mais c'était très très compliqué, parce que, évidemment, en gros, il manque un truc quand même essentiel à l'ordinateur, c'est la perception de la signification. Ouais. C'est-à-dire que pour l'ordinateur, gagner, ça n'a aucun sens. Alors tu peux calculer les circonstances dans lesquelles, les mouvements optimaux pour obtenir telle situation où l'ordinateur est vainqueur, mais il ne cherche pas à gagner.
Oui, ils en foutent.
Ils en foutent, ils calculent ses coups. Et donc là-dessus, si tu veux, quand on prend une décision, justement, alors les échecs, c'est encore un modèle abstrait, parce que la prise de décision aux échecs est très très, comment dire, justement, c'est très très modélisé finalement déjà. Mais malgré tout, t'as déjà un contexte. Mais alors si tu mets ça au niveau politique réel, le contexte
c'est pire,
il est monstrueux.
T'as beaucoup plus de paramètres.
T'as un nombre de paramètres hallucinant. Mm-hmm. Et justement, ce que va faire l'esprit humain très très souvent, c'est éliminer, sans même s'en rendre compte, tout un tas de choses qui n'ont pas d'importance.
Mais l'ordinateur, en fait, là, il n'aura jamais la capacité à savoir. Trouver. Ce qui est important, pas important.
Je sais pas, moi, personnellement, en tant que matérialiste, j'attends avec impatience l'invention d'une intelligence artificielle qui montrera que l'âme n'existe pas, mais et qui provoquera peut-être une grave crise de désespoir chez tous les catholiques du monde entier, enfin, chez tous les religieux du monde entier, d'ailleurs.
Donc,
avec impatience, j'espère que je vivrai assez longtemps pour voir un ordinateur qui dira « Bonjour, je m'appelle John, comment vas-tu ?» Et je pense que ce sera un grand jour pour l'athéisme. Quand on arrivera à créer un esprit à partir de la matière. Mais donc on sait pas trop ce qui pourra se passer, parce que bon, peut-être qu'un jour on arrivera à inventer un savoir, mais un ordinateur assez intelligent pour prendre ce type de décision. Mais après, comment définir l'intelligence, ça c'est une autre paire de manches. Mais bon, en tout cas, je suis pas sûr que si cet ordinateur existait, peut-être que lui aussi fonctionnait sur un modèle plutôt intuitif que purement calculatoire, on va savoir aussi.
Ouais, qui serait devenu presque humain, en fait.
C'est ça. Parce que justement, le problème, je pourrais dire, de la rationalité de guerre froide, à mon sens, c'est c'est son formalisme. Donc je disais, oui, ils cherchent à être formels, c'est-à-dire qu'ils vont identifier la raison à l'utilisation d'algorithmes. Alors les algorithmes, ils les définissent comme un ensemble de règles strictes permettant de déterminer des solutions uniques. Bon. Je pense que c'est des trucs du type, par exemple, ce qu'ils appellent la transitivité des préférences.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Ça c'est du jargon.
Justement,
je vais reprendre, je vais montrer pourquoi concrètement ça marche pas. Mm-hmm. Mettons un algorithme simple, ça pourrait dire que tu préfères A à B et que tu préfères B à C, préférer A à C.
D'accord.
Bon. Et ça, tu peux le coder pour un ordinateur. D'accord ?
Donc un ordinateur pourra calculer ce que tu vas préférer.
Tel mouvement est... Non, c'est-à-dire que l'ordinateur pourrait prendre une décision fondée sur des préférences codées, du type si A se présente, choisir A.
D'accord.
Si A et B se présentent, choisir A. Mm-hmm. Si A et C se présentent, choisir A. Ça, tu peux le coder.
Ouais.
Bon. Le souci, alors après, un des soucis, c'est que justement, concrètement, par exemple, les êtres humains ne pensent pas du tout comme ça.
Alors pourquoi ?
Assez rarement. Donc, mettons, je préfère les frites à la salade et je préfère la salade aux haricots verts. Mais j'ai le choix entre des frites et des haricots verts.
Et tu prends quoi ?
Il est possible que je prenne les haricots verts.
Et comment tu...
Alors que, logiquement, je devrais prendre les frites.
Logiquement, mais pourquoi en
fait, après, pourquoi? Ben ça, ça peut être pour... parce que, alors, on peut rationaliser, c'est-à-dire du type, je préfère les frites, mais les récovers, c'est meilleur pour ma santé. Mm-hmm. Des choses comme ça, qui font que le comportement humain, par exemple, n'est pas modélisable. Mm-hmm. De ce point de vue-là, enfin, est très difficilement modélisable. Ou alors, t'es obligé de supposer que les êtres humains choisissent systématiquement de manière illogique et irrationnelle.
Mais est-ce que tu choisis forcément ce que tu préfères, en fait?
Par exemple.
C'est une autre question.
Oui, ça peut être une autre question, tout à fait. Mais tu vois, là, là tu, en fait, tu fais que reposer le problème à un autre niveau, ouais, c'est-à-dire, ouais. Au bout du compte, est-ce qu'on peut modéliser tout ça? Musique, José? Je sais pas combien de temps.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Vous écoutez Jeudi Noir. On vient d'écouter un morceau qui s'appelle Uncertain Hesitance of Reason de Le Tigre. Et ce soir, Michel nous présente Quand la raison faille perdre l'esprit, qui est paru aux éditions Zone Sensible en 2015. Mmh. Et on était en train de parler des préférences, en fait.
Ouais. On était en train de parler, en fait, de la distance qu'il y a entre un modèle normatif et un modèle descriptif. C'est-à-dire, soit je vous dis comment vous devez penser, soit j'essaie de comprendre comment vous pensez en réalité. Et ça, ça a été un des écueils sur lequel la rationalité de la guerre froide a chopé, parce que justement, dans ce livre là, Quand la raison faillit perdre l'esprit, il montre bien que ces intellectuels américains, économistes, anthropologues, mathématiciens et tout, n'arrêtaient pas de passer finalement de la description à la prescription. Et c'était très compliqué parce que, bon, d'une part, effectivement,
ils le faisaient exprès, enfin, c'était le but.
Non, je pense qu'il y avait peut-être un problème de définition des concepts de base.
Ça paraît bizarre quand même.
Parce que quand on fait un modèle, le modèle, il est à la fois, il peut être à la fois descriptif, parce que il va être.
C'est ce qu'on essaye de faire d'abord, c'est ça?
On essaie de comprendre ce qui se passe, mais après, il devient très très vite normatif. Mmh. Et en fait, le modèle, il est toujours entre les deux.
D'accord.
Si tu prends la poétique d'Aristote, c'est un modèle.
Mmh. De comment c'est censé marcher.
C'est-à-dire qui se base sur des tragédies réelles. Mmh. Comment elles ont été, comment elles sont écrites, comment
d'accord,
ça fonctionne,
après,
et en même temps après ça devient une norme. Mm-hmm. Et en fait eux ils ont pas arrêté de passer comme ça de la description à la norme. Mm-hmm. Et le gros souci c'est que quand ils se sont penchés un peu trop sur la description, mm-hmm. certains d'entre eux, des gens que t'aimes bien, les gens des heuristiques et biais,
ouais. Kahneman, Tversky, tout ça,
voilà,
les aimes bien.
Se sont aperçus, alors leurs résultats après ont été contestés aussi, et ont cru s'apercevoir en tout cas, mm-hmm. que dans la plupart des cas, les êtres humains raisonnaient, se plantaient, mm-hmm. les êtres humains faisaient des faux raisonnements, se plantaient quasiment mm-hmm. systématiquement dans certaines situations. Avec un exemple typique, c'est l'exemple de quoi de cette femme qui...
C'est Linda.
Linda, 31 ans, célibataire, ancienne étudiante à l'université en philosophie, qui était engagée politiquement dans les mouvements pacifistes. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est le plus probable, 10 ans après, mettons, que A, Linda soit guichetière, ou que B, Linda soit guichetière et milite activement dans les mouvements féministes? Et tout le monde répond B. Alors que, rationnellement, c'est A la bonne réponse. Mm. Parce que un événement isolé est plus probable que deux événements conjoints. En gros, il est plus probable que A se produise tout seul, plutôt que A se produise accompagné de B.
Plus B se produise, ouais.
Donc, il est beaucoup plus probable que Linda soit guichetière, plutôt que Linda soit guichetière et militante, ou activiste, chez les féministes. Et donc ils sont tombés là-dessus, sur ce type de problème, et à partir de là, en fait, ça a explosé.
Le groupe a explosé ?
Pas le groupe, mais le mouvement intellectuel.
D'accord.
Parce qu'ils n'ont pas arrêté de... Comment dire ? D'une part, la guerre froide s'est achevée, donc le sentiment d'urgence est retombé, peut-être à tort. Et puis d'autre part, il y avait... beaucoup trop d'objections qui ramenaient à la réalité, du type non mais les gens font pas comme ça en vrai, tout ça, vos modèles ils servent à rien.
On s'est rendu compte que ça marchait pas et que ça servait pas à grand chose.
C'est toujours utilisé, hein, les modèles de la théorie des jeux en économie sont fondamentaux, par exemple. Ça a laissé des traces, pas forcément de bonnes traces, même si le projet à la base était plutôt était très technocratique, très, à mon avis, antidémocratique, pour dire les choses clairement, mais en même temps il avait été relativement intéressant. Voilà, ce serait, si on pouvait savoir comment prendre automatiquement la bonne décision, ce serait aussi là encore un pied de nez pas possible à la théologie. Donc, on vous laisse, et puis c'est entre chien et loup, je crois, à qui on va laisser l'antenne. Au revoir.